Quelques mots, pas du tout au hasard. Age, advantage, beauty, cage, share, flower, fruit, guide, money, table, to pay, river. Et on recommence. Âge, avantage, beauté, cage, share, fleur, fruit, monnaie, table, etc. Comparons.
Pascal Paradou.
En cette journée internationale de la francophonie, j'ose quelques mots anglais, mais je m'en sens autorisé car la langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé. Tel est le titre du nouvel essai de Bernard Cerchiglini, éminent linguiste, ancien prof des universités, ancien délégué général de la DGLFLF, ancien recteur de l'AUF et toujours taquin. Bonjour Bernard Cerchiglini.
Bonjour Pascal Paradou.
Voilà un titre un peu provocateur, la langue anglaise n'existe pas.
Oui, totalement provocateur. C'est d'une mauvaise foi absolue, réfléchie.
Vous le reconnaissez ?
Je le reconnais, je signe et j'emprunte cette formule à une expression qu'utilisait Georges Clemenceau. La langue anglaise n'existe pas, ce n'est que du français mal prononcé.
Mais c'est du chauvinisme que de dire ça.
Oui, c'est du chauvinisme. C'est aussi un moyen, par l'humour, de rappeler aux francophones un peu vacillants et qui font les yeux doux au Global English que leur langue est mondiale dans son extension comme dans son effet.
Alors, cette affirmation un peu provocatrice repose quand même sur des chiffres parce que vous dites que presque la moitié du vocabulaire anglais vient du français. Alors, quand on lit ça et qu'on n'est pas très affûté sur ces questions-là, on tombe de sa chaise.
Oui, 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 on se relève après, heureusement, ayant constaté qu'entre un tiers et une moitié du vocabulaire, les linguistes disputent selon qu'ils sont francophones ou anglophones, bien sûr, mais disons que la part quantitative du français est considérable. Et si l'on ajoute les mots empruntés directement au latin par l'anglais, on pourrait dire que l'anglais est une langue romane, comme le français, l'italien ou l'espagnol.
Mais combien de termes sont issus du français ou du vieux français, hein ?
En gros, 80 000, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit Larousse. Il y a un petit Larousse français dans la langue anglaise. Mais le quantitatif toujours cité ne suffit pas. J'ai consacré ce livre au qualitatif, c'est-à-dire que les mots français passés à l'anglais constituent la part la plus importante, la plus riche, la plus moderne du vocabulaire anglais, celle qui a fait de la langue anglaise la grande langue internationale.
Donc c'est le français qui a modernisé l'anglais, d'une
totalement
certaine façon.
Oui, l'anglais lui doit son progrès, sa modernisation, son rayonnement international. L'anglais peut remercier notre langue.
Un chiffre encore, 40% de l'œuvre de Shakespeare est du français.
Directement. On a déjà ça chez Chaucer, Shakespeare, dans la Bible. C'est constant. Ouvrez un roman anglais ou un article de journal et comptez les mots d'origine française.
Mais est-ce que les Anglais en ont conscience ? Parce que j'ai l'impression que c'est comme un crime de lèse-majesté. C'est comme si on disait que 40% de l'œuvre de Molière vient de l'italien.
Eh bien, je vais vous dire que actuellement, sans vanité, mon livre étonne la presse britannique. J'ai eu droit déjà à deux comptes rendus et même à la première page d'un tabloïd britannique, ce qu'on appelle la presse de caniveau, qui s'étonne qu'un linguiste français ait le culot de révéler la chose. Mais on peut retourner le point de vue en disant, après tout, l'anglais est une langue très accueillante. L'anglais est formé d'un vieux fond saxon et de beaucoup de mots danois, normands, français, latins, ainsi de suite.
Alors, dans ce livre, La langue anglaise n'existe pas, Bernard Cerchiglini, vous étudiez très précisément à peu près 300 mots, mais vous racontez aussi l'histoire de cette langue. Et pourquoi cette influence en fait ? Parce que c'est pas un hasard, c'est parce que la France a colonisé l'Angleterre pendant deux siècles, au 11e, 12e siècle.
En fait, c'est ce que l'on dit d'habitude. On insiste beaucoup sur la période de colonisation qui commence en 1066, Guillaume de Normandie revendique le trône d'Angleterre, il traverse la Manche, attaque Harold, le roi légitime, et une flèche normande perce l'œil et le cerveau de Harold, l'affaire est réglée. Donc Guillaume de Normandie devient Guillaume le Conquérant et commence une colonisation. On peut dire que l'Angleterre a été vraiment bilingue jusqu'en 1260. La classe dirigeante était normande, les seigneurs fonciers, les évêques, etc. Le pays était bilingue. Il y avait deux langues maternelles, celle du peuple et celle des colons. C'est-à-dire, le français a été transféré et il était vivant. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est après 1260. Après 1260, on en parle assez peu parce que le français n'est plus langue maternelle de la classe dirigeante. Il est langue, comme on dit aujourd'hui, langue seconde. On l'apprend à l'école. Et donc les linguistes, les historiens, voient là le début d'un déclin. On doit l'apprendre et il perd des positions. Or, un fait m'a frappé depuis toujours, c'est que c'est au XIVe siècle, donc quand on parle du déclin d'un français qu'il convient d'apprendre à l'école, c'est au XIVe siècle qu'au total, l'anglais est le plus emprunté. Il y avait donc là, au français, il y avait donc là un français second, mais extrêmement vivant. Et c'est le point sur lequel j'insiste, on avait une situation au XIVe siècle qui n'était plus coloniale, qui était une situation de bilinguisme horizontal. On parlait l'anglais et puis on apprenait à l'école une langue qui permettait de faire du commerce, de l'administration, du gouvernement, des services religieux, ainsi de suite. Cette situation, cher Pascal Paradoux, on la connaît par ailleurs, elle s'appelle la francophonie. D'où, autre idée audacieuse du livre, la francophonie est née en Angleterre dans les années 1300.
Et on retombe de sa chaise.
En
cette journée de la francophonie, Bernard Cerchiglini, je vous propose d'écouter l'artiste française la plus écoutée dans le monde. C'est Aya Nakamura qui vient de sortir un nouveau titre, Hype.
Yeah, 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 yeah. Je crois que je ne t'aime plus. J'ai changé de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échappe. Tu me dis que je vais rester. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais.
Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10.
J'suis bien hyper. T'es dans l'over, t'as ça y est. Puis hyper. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises.
Moi j'voulais nous deux mais tu vis pour les caméras. Tout ce cinéma c'était pour les caméras. Moi j'voulais laver, laver. Et dans toutes les bouches j'ai entendu le commérage. Je sais que j'étais. Toi tu doutes de quoi je sais que j'étais. Et pour les boucs comme toi, fini sentiment, fini tout ça. Les gars, je me suis mise en bombe en pétard. Mais du coup le bouc est fâché. J'étais dedans, moi j'ai lâché. Moi j'ai lâché tout ça. Je suis bien hyper. Hyper, 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 hyper. T'es dans l'over, t'as ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Faisait trop les bêtises.
À Aya Nakamura sur RFI et peut-être bientôt sur les écrans du monde pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors c'est toujours une rumeur, elle fait déjà couler beaucoup d'encre. Bernard Cerchiglini, que pensez-vous de ces chansons? On lui dispute la possibilité d'incarner la France et la langue française donc.
C'est un excellent choix. J'aime ses chansons, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son usage de la langue, d'une langue française vivante, qui ne craint pas d'emprunter des termes à des langues africaines, qui ne craint pas de jouer, de se moquer. Que lui reproche-t-on ? De chanter une langue moderne, d'être la chanteuse la plus connue et écoutée depuis Edith Piaf, ou le reproche-t-on la couleur de sa peau ?
Vous êtes un fan ?
Je suis.
Hypé pourtant, c'est un anglicisme.
Bien sûr, mais elle en joue. Je suis d'aide de ça. Bien sûr, c'est pour se moquer.
Alors, en principe, de toute façon, c'est pas très grave, parce que c'est une revanche. L'anglais a emprunté au français, le français peut bien emprunter à l'anglais. Vous n'êtes pas vent debout contre les anglicismes, Bernard Cerchiglini.
Je suis vent debout contre l'abandon pur et simple de la langue. Dans certains secteurs de la société, on parle anglais. Bon, ça... C'est inadmissible. La langue française, nous l'avons en partage, elle nous constitue. En revanche, qu'il y ait quelques mots anglais dans sa parlure, comme il y eut jadis des mots italiens ou des mots espagnols, ce n'est pas grave. D'autant plus, et je leur consacre tout un chapitre, beaucoup de ces anglicismes récents sont en fait d'anciens mots français qui font retour.
Mais justement, vous dites que l'anglais est un musée lexical pour le français, une très bonne initiation au vieux français. Là
oui,
aussi, c'est un peu paradoxal.
Ne tombez pas de votre chaise, mais si vous voulez
je suis
apprendre...
bien accroché.
Si vous voulez, Pascal Paradou, apprendre l'ancien français et même l'ancien normand, faites de l'anglais. Il est évident qu'on a en anglais, ces mots qui sont rentrés en anglais se sont figés, ont gardé leur prononciation ancienne. Gentle, c'est l'ancien français gentil, devenu gentil, ont gardé leur sémantisme ancien. Cave signifiait caverne, avant de prendre le sens moderne de cave, ainsi de suite. L'anglais est un grand musée national de la langue française.
Et pourtant, les Français parlent très mal l'anglais.
Ils ont tort. Ils ont tort. Je crois qu'il faut parler l'anglais, car c'est une très bonne forme régionale du français.
Alors, en Grande-Bretagne, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que, comme vous le disiez, les nobles anglais ont une tradition avec cette langue française. Le roi parle français, et d'ailleurs, la défunte reine Elisabeth II était, elle aussi, parfaitement bilingue par l'exemple.
Il y a maintenant 50 ans. À la veille des célébrations du centenaire, j'ai prié les Canadiens de continuer à donner l'exemple en incarnant les valeurs d'égalité, de liberté et d'inclusion. Aujourd'hui, ces valeurs demeurent ancrées dans l'expérience canadienne. Vous formez encore un pays jeune, mais vous avez déjà toute la maturité voulue pour suivre votre vocation.
Elisabeth II, en 2017, ses vœux au peuple canadien, c'est pas mal, hein ? Elle parlait très bien, la reine, Bernard.
Je peux en témoigner, j'ai eu l'occasion d'être invité à l'ambassade de Grande-Bretagne à l'occasion d'une visite officielle de la reine d'Angleterre, et le protocole de l'ambassade m'avait prévenu que, un, on dit madame à la reine d'Angleterre, et deux, on lui parle en français.
Et la reine promulgue les lois, c'est son rôle. Avec cette formule, la reine le veut ou le roi le veut, et c'est une promulgation en français, en fait.
Bien sûr, depuis l'invasion normande, le français est la langue du prince. Il en reste des choses, Dieu est mon droit, n'y soit qui mal y pense, et la promulgation, le roi le veut. Écrit V-E-U-L-T comme en moyen français. Je vous ai dit, l'anglais est un très bon musée national.
Quelle est la partie du vocabulaire anglais où le français est le plus marquant ? Le vocabulaire politique ? Démocratie ? Démocratie, c'est quoi ? C'est français ou c'est anglais ?
C'est plutôt grec au départ, mais passé en français et passé à l'anglais. Le vocabulaire politique est très intéressant parce que les Anglais l'ont emprunté au français comme motion, qui voulait dire mouvement. Ils l'ont donné un sens tout nouveau, motion, hein, dans une assemblée. Les philosophes des Lumières qui sont passés à Londres au XVIIIe siècle dans les clubs, belle invention, ont acquis ce goût pour le parlementarisme, ont pris le vocabulaire qui est rentré en France à l'époque de la Révolution. Et tout ce vocabulaire, motion, majorité, même convention, sont des termes français anciens qui ont adopté au XVIIIe siècle anglais un sens politique nouveau et qui fait retour. Donc, le vocabulaire de l'administration, du droit, du gouvernement est massivement français.
Et vous rappelez aussi dans ce livre « La langue anglaise n'existe pas » que ce sont des mots abstraits, enfin avec une notion abstraite qui sont passés d'une langue à l'autre.
Oui, on pourrait dire, par provocation, mais continuons, que si l'on veut penser en anglais, il faut utiliser des mots d'origine française.
À ce point-là?
Je le dirais volontiers. Prenez un texte rédigé en anglais de sciences humaines, de sciences sociales, de droit, il est pratiquement en français.
La cuisine aussi emprunte pas mal aux Français, les mots de la cuisine anglaise.
Bien sûr, car y a-t-il une cuisine anglaise?
Vous allez vous faire des ennemis. Le roast beef, c'est pas anglais?
C'est du roast bœuf, c'est-à-dire du bœuf rôti. Et c'est à peu près ce qui est mangeable dans la cuisine britannique.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle, Bernard Cerclini, un spectacle de Bertrand Bossard. Il s'appelle Incredibly Incroyable. Il a été créé il y a de nombreuses années, mais il continue à tourner. C'est donc un acteur français qui a fait un spectacle tout en anglais et c'est OK pour un public français.
I am the Oedipus of the stand-up comedy circuit. Do you remember the story of Oedipus? Oedipus. Oedipus, that guy who killed his father and had sex with his mother. They used to call that a myth. Hein. Ils appellent ça un mythe. Aujourd'hui, on appelle ça un fait divers. Hein.
Dans le choix d'écriture d'Incredibly, entre une expression plus facile à traduire dans la tête d'un Français et l'expression pure en anglais, je fais des choix. Les deux tiers, c'est plus facile pour les Français. Et de temps en temps, il y a des vraies expressions anglaises. Parce que c'est vraiment en anglais totalement, un anglais assez pur. Mais je vais aider à la traduction.
Mais c'est un anglais facile quand même. C'est un peu globiche, non?
Ouais, non, c'est pas si facile que ça. Mais pourtant, c'est facile parce que... Et après, la dernière touche, c'est que dans le spectacle, je dois dire... Allez, je dirais 30 mots en français, qui sont les 30 mots qui déculpabilisent le français. S'il avait compris qu'il n'était pas sûr, il se dit « Ah, mais si j'avais bien compris !» Et tout d'un coup, il se valorise et il est bilingue, quoi. Et on sort, effectivement, moi, c'est les retours que j'ai. C'est très drôle, c'est super, mais surtout, en plus, mais j'ai tout compris, quoi.
Tout comprendre à l'anglais, même quand on n'est pas bilingue, c'est Bertrand Bossard avec son spectacle Incredibly Incroyable. Bernard Cerclini, si on fait l'histoire de la langue anglaise, il y a eu des allers-retours tout au long des siècles, et pas simplement ce que vous disiez, la période de la colonisation. Ensuite, au XIVe, au XVIIe, les deux langues se sont nourries et le français a nourri l'anglais.
Exactement. Le français nourrit l'anglais jusqu'au XVIIIe siècle. À l'époque où le mouvement a commencé à l'envers. Au XVIIIe siècle, l'anglais emprunt toute une série de mots français, à tel point que Daniel Defoe publie un article rageur en disant « Mais il y a trop de mots étrangers dans notre langue. » Il ne se rend pas compte qu'il n'utilise que des mots d'origine française dans son énoncé. Et puis ça commence à basculer. J'ai parlé tout à l'heure de l'anglomanie des Lumières, et puis ça s'est accru. Et le basculement est après 1945. Là, ce n'est plus l'anglais britannique, c'est l'anglais des États-Unis qui massivement donne des mots, et nous en sommes là en ce moment.
Mais nous sommes nourris par ces mots anglais, sport par exemple.
Oui, sport.
C'est anglais.
Ben oui, alors c'est intéressant.
Ça, c'est
parce
le retour.
Que c'est un retour. C'est un mot, un anglicisme que j'appelle pendulaire. C'est le désport de l'ancien français, donc l'amusement, la joie, qui a donné l'anglais sport avec chute de l'initiale, c'est habituel. Et sport a pris dans l'anglais du début du 19e siècle le sens de exercice physique que l'on pratique pour diverses raisons, d'où le sport qui est de retour au 19e siècle. Voilà un très bel anglicisme pendulaire.
Donc il est inutile d'opposer l'anglais pur avec le français pur, si tant est qu'on puisse parler de pureté à propos des langues. Mais de là à dire que la francophonie est née en Angleterre vers 1300, en cette journée de la francophonie, je vous laisse nous l'expliquer.
Oui, mais je le crois, c'est-à-dire qu'on a selon moi, le premier exemple d'un échange dialogique horizontal entre deux langues. Il ne s'agit plus de colonisation, comme entre 1066 et 1260, il s'agit de cohabitation d'une langue anglaise qui est vivante, qui est la langue maternelle, familiale, et d'une langue française qui sert à travailler, à gouverner, à faire de l'administration. Et la langue française est là pour aider la langue anglaise à acquérir du vocabulaire, à progresser et à rayonner. C'est au fond exactement ce qui se passe dans bien des pays actuellement. Pensez à la cohabitation entre le malgache et le français à Madagascar. Le français va aider le malgache à acquérir un vocabulaire scientifique et technique, par exemple. J'appelle ça la francophonie.
Mais alors, quelle est votre définition de la francophonie? Justement, cet échange de langues, cette dimension plurilingue, c'est-à-dire inscrire le français dans un paysage plurilingue?
Exactement. Exactement. La francophonie, c'est un travail du français dans un espace plurilingue.
Donc, il s'agit quoi? De défendre le français, de le promouvoir, de le protéger? Quel est le terme que vous employez?
De l'illustrer comme grande langue fécondant les autres, une langue de développement et d'aide, mais toujours dans le dialogue. Ce qui me frappe, et ça sera le thème de mon prochain livre, c'est que le français est une langue de dialogue. Le français a toujours dialogué. Rappelez-vous, le premier texte écrit en français, les fameux serments de Strasbourg, auxquels j'ai consacré pour l'instant deux livres, ces serments de Strasbourg sont bilingues. La naissance de la langue française se fait dans le bilinguisme. La francophonie est une pratique plurilingue. Cela semble paradoxal, puisque la francophonie, c'est le fait d'avoir le français en partage. Mais on a un français en partage qui dialogue.
Un français ou des français?
Alors, des français, bien sûr, on pourrait le dire. Et la cité, la merveilleuse cité de Villers-Cotterêts en est une illustration.
En cette journée de la francophonie, Bernard Cerchiglini nous a rejoint Lucie Bouteloup. Elle est là tous les mercredis et il ne s'agit pas simplement des jours pour célébrer la francophonie. Et aujourd'hui, elle parle sport, ses façons de parler.
Façon de parler, hein. Façon de parler.
Façon de parler.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, bonjour Bernard.
Vous avez l'air dans une forme, on va dire, olympique aujourd'hui.
Je suis heureuse que vous le remarquiez et ça tombe bien puisque le sport, c'est la thématique de cette semaine de la langue française et de la francophonie. J'en ai donc profité pour tendre mon micro à des collègues de notre grande radio mondiale. En plateau, Anan Abdallah, journaliste sur MCD qui traite tous les jours de l'actualité sportive. Elle représente le Maroc. Simon Bourtembourg, un ancien du service des sports de RFI qui représente, lui, la Belgique. Et avec nous aussi, Aboubacar Fofana, qui est stagiaire à la communication pour la Côte d'Ivoire. Et enfin, Eric Amiens, qui anime le club des auditeurs sur RFI pour la Guadeloupe. Les mots du sport dans la francophonie, c'est le sujet de ce façon de parler.
Bon, alors le match vient de commencer, la compétition s'annonce difficile. Comment on dit en Côte d'Ivoire, alors ça va être difficile?
Bon, c'est assez simple, mais parfois, on va dire ça va être chaud.
Et Simon, pour la Belgique?
Déjà ça, on pourrait aussi le dire en Belgique, mais chez nous, quand une compétition s'annonce difficile, on peut dire ils vont avoir dur, va pas falloir jouer comme des clètes. C'est une expression bruxelloise.
C'est quoi les
clètes? C'est ça, c'est comme des mauvais joueurs, quoi. Il va falloir être bon et rassembler ses forces pour vaincre quelque chose qui s'annonce donc difficile a priori.
Eric Amiens.
Alors, je vais utiliser une expression, il y aura du dombré. C'est un plat antillais et cette phrase est entrée dans la culture guadeloupéenne parce que c'est un champion cycliste, Sartunier Moulia, le champion guadeloupéen, allait affronter les Vénézuéliens et les Colombiens qui sont des montagnards et qui escaladent vraiment la montagne. Et lorsqu'on lui demande comment ça va se passer, il dit « Ah !» Là, il va y avoir du dombré. Dombré, parce qu'en fait, ce sont des boulettes de farine qu'on fait avec de l'eau et du sel. Et donc, c'est entré dans la
et
culture.
Et c'est un peu roboratif.
C'est un roboratif, okay. qui tient. Et en même temps, le fait que ça soit roboratif, donc c'est difficile quelquefois
à digérer.
Donc voilà, et c'est pour cela que cette expression, il y aura du dombré.
Pour autant, on ne va pas perdre espoir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour encourager les athlètes? Anan, au Maroc, on leur dit quoi?
Au Maroc, c'est très facile, puisque c'est un ancien protectorat français. Donc, pas mal de vocabulaire est marocanisé, arabisé. Khassout ouais. Akrocha. Ça vient du verbe « il faut s'accrocher » et c'est comme ça, c'est très facile.
Les Québécois, ils diraient « faut pas lâcher la patate ». Comment est-ce qu'on dit à vous en Côte d'Ivoire?
Dans le cadre d'un match, on dit « faut pas dégba ».
Faut faut pas d'Egba, faut rien lâcher.
Faut
quoi.
Rien lâcher, faut pas lâcher, faut pas d'Egba.
Et pour les encourager, on leur dit quoi?
On dit on est ensemble.
On est ensemble. Mais oui, Simon.
Ah bah chez nous, on pourrait dire par exemple, j'imagine dans les tribunes d'un stade et je vois des joueurs face à moi, notamment en Wallonie, donc le sud de la Belgique, on leur dirait allez, faut skater le baraque, quoi. Faut tout casser, faut donner le maximum.
Skater, c'est quoi?
Ça veut dire casser. La traduction en français, c'est casser.
Anand, ça vient de il faut pas lâcher, c'est matlachish. C'est toujours en français, mais arabisé.
Bon, et puis parfois, hélas, il y a des athlètes hein, qui s'en sortent pas. On dit quoi quand ils n'y arrivent pas bien?
Coincé, ça vient du verbe coincer.
Ils sont coincés, ils sont un peu coincés, dans l'embarras. Quoi.
Coincé, exactement.
En Côte d'Ivoire, pour dire qu'un joueur n'est pas bon, on va dire par exemple, c'est un zogo.
Un zogo.
Un zogo.
Un zogo, ouais.
Ou un vaurien, c'est... On le dit souvent chez nous.
Qu'est-ce qu'on dirait?
On peut dire aussi, chez nous, un joueur mango. Il n'est pas performant, quoi. Hein? Donc, mango, c'est la mangue, quoi. Donc, en fait, c'est un joueur qui...
Il n'a pas de bras, il a pas de main,
mango,
quoi.
Mango, voilà.
Et qu'est-ce qu'on dirait, Simon, alors, en Belgique?
Nous, en Belgique, d'un sportif qui n'est pas trop en bonne forme, on dirait qu'on pourrait dire, par exemple, qu'il a les clopes. Ça veut dire qu'il a peur de son adversaire, qu'il ne se sent pas forcément prêt. Sinon, s'il n'est pas en bonne forme physique, on pourrait dire qu'il en a plein les pattes, qu'il a des jambes de coton. Voilà, tout ça, c'est des expressions qu'on utilise voilà, pour caractériser les athlètes qui sont en difficulté.
Ben, nous, on dit tout simplement « skente », ça vient du verbe « skente ».
Ah oui, carrément.
C'est facile.
On peut dire aussi chez nous un joueur qui est dans le colta. Hein. Il y a un colta.
Ça a à voir avec le colta.
Yes, oui, oui.
Il est dans le brouillard. Voilà. Quoi. Et au contraire, quand un joueur est en forme, qu'il est bien musclé, par exemple, comment on le décrit? Comment on dit?
En Côte d'Ivoire, on peut dire zigei, quelqu'un de musclé qui est beau. C'est bon. Quelqu'un qui est fort physiquement, qui est musclé.
Mboudr.
Anan.
On dit mboudr, ça vient du mot poutre en français.
Ah, ça dit tout, la poutre.
Mais
ils disent
mboudra. Et c'est comme ça qu'ils la prononcent, parce que voilà, encore une fois, c'est des mots arabisés. Mais ça vient du français.
Et si on parlait foot maintenant, est-ce qu'il y a des termes spécifiques, Eric? Pour dire jouer au foot, on dit quoi?
Ben, jouer boule.
Jouer boule.
Ouais, jouer boule. Hein.
En Côte d'Ivoire, on dit on va gboro ballon ou on va jouer ballon.
Gboro. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit quand il y a un but?
Un but. Gor.
Ah, gor aussi en Belgique, pareil.
Gor.
Ouais.
Alors,
non.
Si.
Gor, ouais. Ça se termine gor. Avec un R.
Avec un R.
Donc ça n'a rien à voir avec le goal.
Ah, nous, par nous, ça va être plus proche de l'anglais.
Eric?
Alors, chez nous, on dit woulo. Quand quelqu'un marque, woulo, nous voyons, woulo, nous voyons. Et j'ai su que ce mot, créole, bien sûr, on le dit aussi au Congo.
Et quand on veut désigner un tricheur, comment on dit alors? À vous.
Parfois, pour dire un tricheur, on dit c'est un malot. Un malot, on peut dire c'est un faux aussi. Un malot, un faux, généralement, c'est un tricheur.
Et pour parler d'un champion, il y a une façon spécifique de parler d'un champion ou pas? Dans cette francophonie, oui.
Parfois, chez nous, en Côte d'Ivoire, pour dire un champion, c'est un 10. Par exemple, le numéro 10, généralement, c'est le meneur de jeu, c'est le meilleur joueur de l'équipe.
Ouais, c'est un 10, sous-entendu, 10 sur 10. Oui, Anan.
Moi, je le rejoins là-dessus, c'est un dixième. C'est un dixième, c'est
le numéro 10 de l'équipe. Ouais.
Bon, et ben, en tout cas, que le meilleur gagne alors. Merci à tous.
Merci.
Merci, Lucie. On va vous retrouver prochainement sur l'antenne avec une nouvelle chronique le week-end, samedi et dimanche, les mots des JO. Les JO dont le français est la langue officielle, il faut quand même s'en souvenir, et depuis l'origine. Bernard Cerquiglini, est-ce que ce sera un rendez-vous aussi pour la francophonie, pour la langue française, ces JO?
Bien sûr, grâce à Pierre de Coubertin, le français langue olympique, il va l'être éminemment en France, et il a tous les mots pour décrire le sport, inutile de recourir à l'anglais, mais surtout, on vient de l'entendre, tous les mots familiers. Ça sera donc la fête d'une grande francophonie sportive populaire dans sa variété, ses accents, ses richesses. Épatant.
Donc vous allez devenir sportif cet été.
Une fois n'est pas coutume.
Merci Bernard Cerquiglini. La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé, est édité chez Folio. C'est un inédit et c'est pas cher. Double raison pour le lire et l'acheter. De vive voix à Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto. À demain.